Partie 2 de l'étude « Nous ferons » Exode, chapitre 18, Jéthro. Pour une meilleure compréhension et pour ceux qui n'auraient pas pris connaissance du premier document sur l'Alliance éternelle de Dieu, faisons ici un petit résumé de la fin de la partie 1. Dans les versets 7 et 8 du chapitre 15 du livre de la Genèse, l'Éternel avait parlé, ou plutôt prophétisé, de cette manière à Abraham concernant la possession du pays promis à sa foi. L'Éternel lui dit encore « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» L'Éternel dit à Abraham « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » C'est ce qui a été dit à Abraham. Si donc on suit la chronologie, on est censé retrouver dans le peuple de Dieu, même si 400 ans se sont passés, la même foi qu'avait leur père Abraham, et retrouver aussi l'alliance éternelle de Dieu dans laquelle il s'engageait envers lui-même pour conduire son peuple jusqu'à destination. Oui, retrouver dans la descendance d'Abraham cette même confiance en Dieu, et ceci malgré que les 400 ans prophétisés par l'Éternel se soient passés. Du livre de la Genèse, nous allons maintenant venir dans le livre de l'Exode, où les 400 ans se sont maintenant passés. Fin de la partie 1. Exode, chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Voilà pour l'entrée en matière. En revenant un peu en arrière, on voit que l'Éternel avait promis à Abraham de délivrer son peuple qui allait être tenu captif par la main de Pharaon pour le conduire ensuite dans le pays où coule le lait et le miel. Ce pays, ce territoire, étant spirituel avant tout. 400 ans se sont passés et le peuple est maintenant constitué. En principe, et en tant qu'individu, chaque Israélite est censé vivre de la foi d'Abraham, puisqu'ils sont de sa postérité, et ensuite, tous unis par le même esprit, appelés à former un seul peuple pour vivre à Dieu. Ceci est d'autant plus vrai et grand que cette alliance éternelle concerne aussi les nations dont nous sommes, puisque chacun de ceux qui sont à Christ était dans les reins d'Abraham lorsque Dieu lui fit la promesse d'une postérité spirituelle à venir, et que celle-ci concerne la venue en chair de notre Seigneur Jésus-Christ, voir Galates chapitre 3, verset 16. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Jéthro, c'est le nom qui est en rapport avec sa fonction de sacrificateur en Madian. Alors que son nom en tant que beau-père de Moïse, c'est Réuel. Il est mentionné sous ce nom en Exode chapitre 2 verset 18, « Quand elles, ses filles, furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Son nom, Réuel, n'est cité qu'à deux reprises dans les Écritures, alors que le reste du temps, c'est sous le nom de Jéthro qu'il est fait mention de lui. Jéthro veut dire « prince » ou encore « excellence ». C'est son nom par rapport à sa fonction de sacrificateur en Madian. C'est donc en tant que sacrificateur de dieux étrangers, en Madian, qu'il offrait des sacrifices à ses dieux et à ceux de son peuple. C'est auprès de cet homme que Moïse a été à l'école de Dieu pendant 40 ans. Comme quoi les voies de Dieu sont loin d'être les nôtres. Il était de la postérité d'Ésaü et habitait dans le territoire de Madian, là où sont justement les ennemis de Dieu, et de là où était aussi Balaam. De ce peuple, il est écrit en Exode, chapitre 25, verset 17, que l'Éternel ordonnera à Moïse de les traiter en ennemis et de les faire tous mourir. Voilà donc de quel peuple était Jéthro et la fonction de sacrificateur qu'il exerçait au milieu d'eux. Pourtant, s'il advenait que vous veniez à parler de Jéthro à un croyant, eh bien il vous dira que d'après la façon dont il l'a lu, c'est pour lui un homme bien, et cela parce qu'il aurait donné de bons conseils à Moïse. Mais le problème, voyez-vous, c'est que ce croyant ne sait pas voir de quel dieu Jéthro était au service, et c'est ça qui est grave. L'ange de l'Éternel lui apparut, à Moïse, dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. » Voilà pour ces deux versets qui montrent que c'est en tant que le Dieu de son père, les pères dans la foi, que l'Éternel se présente à Moïse, et que c'est sur la base de cette même nature de foi qui a été vue en Moïse qu'il va maintenant devenir le serviteur de l'Éternel. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Chapitre 4, verset 18. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, va en paix. C'est après avoir passé 40 années au service de Jéthro, le sacrificateur en Madian, que Moïse se sépara de lui suite à l'appel de l'Éternel son Dieu en sa direction. Moïse étant arrivé là en tant qu'Égyptien revêtu de toute la noblesse qui allait avec, et il en est sorti en tant que berger des troupeaux de Jéthro. Il lui a donc fallu apprendre ce qu'était l'abaissement dans l'obéissance, la faiblesse, et l'humiliation, car Moïse, comme chef et comme libérateur du peuple de Dieu, était aussi un type de Christ. Plusieurs semaines s'étant passées depuis que Moïse s'était séparé de son beau-père, on voit réapparaître ce dernier, dans le chapitre 18 d'Exode, en tant que Jéthro, et non pas Réuel, comme c'est écrit. Chapitre 18, verset 1. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple, il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. C'est lui qui va faire entrer la notion du « nous ferons tout ce que l'Éternel a dit », annulant ainsi et d'un seul coup l'alliance que Dieu avait faite en direction de la foi d'Abraham, alliance dans laquelle il s'engageait lui-même à emmener son peuple jusqu'à destination. Oui, puisque dans la notion de « nous ferons », c'est la main de l'homme qui est à l'œuvre à la place de celle de Dieu. Ceci est un point très important à connaître à cause de la gravité de la chose. Pour connaître le côté vicieux de la notion du devoir faire de l'homme, introduite par Jéthro au sein du peuple de Dieu et qui nous est parvenue à nous aussi les nations, le minimum c'est déjà d'être au point sur l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, l'homme en qui foi était. Il est évident que dans l'engagement de Dieu par rapport à son alliance, il n'y avait pas seulement le fait de porter son peuple, de le nourrir, de combattre les ennemis à sa place, mais aussi le fait qu'il ne demandait rien à personne en échange de son engagement envers chacun, et encore le fait que dans cette alliance, il prenait aussi sur lui, et sans y répondre, les murmures du peuple. Oui, dans l'engagement de Dieu envers son peuple, il prenait aussi sur lui le mauvais état du cœur du peuple, ne disant rien, mais supportant tout. Si on a du mal à saisir tout ce que comprend cette alliance éternelle de Dieu, alors il n'y a qu'à regarder ce par quoi est passé Jésus, qui est lui-même le centre de cette promesse induite dans l'alliance, pour que celle-ci nous atteigne à tous sans exception et sans avoir rien à donner en retour. Et pourtant, cette notion du « nous ferons tout ce que l'Éternel a dit » nous a, pour notre plus grand malheur, atteint à nous aussi les nations, bien que souvent on s'en défende, et c'est pour cette raison qu'il est impossible de passer cette chose sous silence et de faire comme si tout était normal. Non, il n'y a rien de normal dans le fait que ce soit un sacrificateur de dieux étrangers qui, sous le prétexte de donner de bons conseils à Moïse, en vienne à faire croire aux croyants que c'est par le moyen de lois qu'on devra répondre aux attentes de Dieu. Verset 2. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. C'est donc bien en tant que sacrificateur dans le pays de Madian que Jéthro vient se présenter devant Moïse, mais c'est sous le couvert de sa position de beau-père qu'il va le faire, puisqu'il avait emmené avec lui la femme et les deux fils de Moïse. L'écriture est très fine, c'est pourquoi elle montre le subtil mélange qu'il y a entre le sacrificateur de Madian et le beau-père de Moïse. Cependant, voyons, comme c'est écrit au verset 1, que le véritable but de la venue de Jéthro en direction de Moïse n'était pas de lui emmener sa femme et ses deux fils, mais c'était parce qu'il avait appris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. La question qu'on peut alors se poser est de savoir ce que cet homme avait derrière la tête en venant vers Moïse en tant que son beau-père, puisque sa fonction à lui était de servir des dieux, autres que l'Éternel, le Dieu de Moïse. Dit d'une autre manière, on dira que c'est par ruse que Jéthro utilisa sa position humaine de beau-père de Moïse, Réuel, pour venir sur le territoire de Dieu, mais il le fit en ne laissant jamais de côté sa position de sacrificateur des dieux à qui il sacrifiait en Madian. En effet, pour pouvoir asseoir son autorité sur le peuple de Dieu, il ne fallait pas moins qu'un sacrificateur pour l'atteindre au cœur. Et ça a marché. Ce qu'a fait Jéthro est très subtil, au point que personne ne voit la tromperie que pourtant l'Écriture met en évidence. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. » En parlant de cette manière, Jéthro se place déjà en tant qu'autorité de Moïse. Moïse sortit au devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta alors, à son beau-père, et pas à celui qui officiait en tant que sacrificateur dans son pays Madian, tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin, et comment l'Éternel les avait délivrées. Jéthro, mettant de côté sa fonction de beau-père, car n'ayant jamais quitté sa fonction de sacrificateur de dieux étrangers, se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. » Voilà pour le texte. Pour Jéthro, la façon de reconnaître que l'Éternel est au-dessus de tous les autres dieux, c'est la façon dont les Égyptiens ont été punis de leur méchanceté. Qui n'a jamais entendu ce genre de message, ce genre de prédication de la part de responsables religieux? Si tu fais le mal, Dieu va te châtier et faire retomber ta méchanceté sur toi. En parlant de cette manière, le responsable de l'assemblée emploie exactement le même langage que celui de Jéthro. En fait, l'image qu'on nous présente de Dieu est celle d'un père fouettard. Mais comment est-il possible d'aimer ce genre de père? C'est impossible, voyons. En fait, le problème de Jéthro est qu'il ne voit pas avec les mêmes yeux que Moïse. Pour Moïse, c'est uniquement la délivrance que l'Éternel a opérée en faveur de son peuple qu'il voit, alors que pour Jéthro, lui ce qu'il voit, c'est la punition des Égyptiens qui serait venue de la part de l'Éternel. Mais puisque Jéthro déclare aussi que l'Éternel est plus grand que tous les dieux que lui-même sert, on pourrait maintenant s'attendre à ce qu'il en vienne à quitter sa fonction de sacrificateur en Madian pour se rallier au peuple de Dieu et aller en direction du pays promis à sa foi d'Abraham. Mais non, ce n'est pas du tout ce que la suite du texte va nous montrer. Il y a donc comme une forme d'hypocrisie bien cachée en Jéthro. Un hypocrite étant une personne qui joue un double jeu. Verset 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Voilà, on y vient. Ainsi Jéthro, en tant que sacrificateur de Dieu étranger, mais sous le couvert de sa position de beau-père de Moïse, est celui qui s'autoproclame sacrificateur du Dieu de Moïse et qui rajoute ainsi l'Éternel à sa longue liste de dieux qu'il sert. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Ainsi, Aaron et tous les anciens d'Israël n'y ont vu que du feu. Mais voyons qu'à ce repas, il n'est pas fait mention de Moïse. Y était-il ou n'y était-il pas, rien n'est écrit à ce sujet. Mais la suite nous montre que le côté Jéthro n'apparaît plus dans le texte. Jusqu'à la venue de Jéthro, il n'y avait pas de sacrificateur au sein du peuple de Dieu, et lorsqu'il y avait sacrifice, comme la Pâque en l'honneur de l'Éternel, cela se faisait dans chaque maison, et personne ne faisait cela à la place d'autres. Un holocauste et des sacrifices nécessitent des sacrificateurs. On peut donc dire sans crainte de se tromper que Jéthro transporta avec lui la fonction de sacrificateur de dieux étrangers qu'il avait dans son pays pour l'intégrer au sein du peuple de Dieu. En effet, à aucun endroit on ne voit l'Éternel demander à Abraham de lui offrir des sacrifices et des holocaustes en retour de son alliance. Alors pourquoi Jéthro vient-il instituer un rite qui jusque-là n'existait pas au milieu du peuple de Dieu? Suite à cela, on peut alors penser qu'il y a eu entre Moïse et Jéthro, son beau-père, une petite explication sur ce qu'il avait fait la veille au sujet de l'Holocauste et des sacrifices. C'est pourquoi le nom de Jéthro n'apparaît plus à partir de là, mais seulement le terme « beau-père ». Verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit « Que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. » Ah bon. Donc d'après le beau-père de Moïse, Dieu n'était pas encore avec lui, mais sur son conseil, désormais, il le sera. Pourtant, il me semble bien qu'en Exode chapitre 3, l'Éternel avait parlé de cette manière à Moïse. Verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. » Voyons aussi que depuis toujours, ce que Dieu demandait à l'homme, c'était d'écouter sa voix, la sienne. Et voici que Jéthro, celui qui se place au-dessus de Moïse en se servant de sa position de beau-père, veut le convaincre d'écouter la sienne de voix, donc la voix de l'homme à la solde de l'ennemi. Pourtant, lorsque l'Éternel a donné l'alliance à Abraham, l'homme de Dieu ne l'a-t-il pas reçu comme lui parvenant par sa voix? Oui, bien sûr. Et voici que maintenant il serait question pour Moïse et le peuple à sa suite de changer de voix. Donc de voix, avec les conséquences désastreuses qui vont aller avec. Voilà ce que je veux dire. Qui n'est pas passé par ce même chemin de séduction lorsqu'il était dans la religion? À quelle voix ou voix portions-nous notre oreille en ce temps-là? La voix de Dieu, ou bien la voix d'un homme qui se faisait passer pour un sacrificateur, ou pasteur, au service de Dieu, alors que c'était au service de Dieu étranger qu'il était? Donc si Moïse, lui, le serviteur de Dieu, est tombé dans le piège tendu par Jéthro, puisqu'il a écouté et puis suivi ses conseils, quoi d'étonnant que nous y tombions aussi? Qui n'a pas un jour pensé que les conseils de Jéthro envers Moïse étaient bons, alors qu'en réalité il était un serviteur de l'adversaire? Mais au-delà de ça, Qu'est-ce qui est en train de se passer ici ? Alors que dans son alliance avec Abraham, l'Éternel n'a eu cesse de s'engager avec lui sur la base de son jeu, Jéthro est en train de dire à Moïse qu'il va s'épuiser à la tâche. Mais qui travaillait ici ? Cela ne fait-il sursauter personne ? De manière sournoise, Jéthro est en train de remettre en question la capacité de l'Éternel à accomplir ce qu'il a déclaré, et cela ne fait réagir personne. Voici le texte dans Exode chapitre 6, verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. » Est-ce que ces paroles données à Moïse pour aller ensuite en direction du peuple ne sont pas de la même nature que celles données à Abraham ? Bien sûr que oui. Sois l'interprète du peuple près de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Continue de dire le beau-père de Moïse, selon sa sagesse bien humaine. N'est-ce pas ce que Moïse faisait déjà depuis 3 mois, depuis leur sortie d'Égypte ? Verset 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Voilà donc ce qui manquait au peuple d'après le beau-père de Moïse. Il lui manquait des lois et des ordonnances qui lui diraient maintenant ce qu'il devait ou ne pas faire. En fait, en parlant de cette manière, Jéthro était en train de mettre une séparation entre Dieu et son peuple. Dans l'alliance faite avec Abraham, sur tous les points que nous avons pu lire, partout c'était l'Éternel qui s'engageait à faire ce qu'il avait lui-même promis, et voici qu'en l'espace d'une seconde, Jéthro fait introduire une main humaine, charnelle, dans une chose qui est de l'ordre du divin. Voilà, frères et sœurs, dans quoi nous sommes tous tombés un jour ou l'autre. Voilà comment, en l'espace d'une seconde, l'adversaire nous a séparés de ce que Dieu avait prévu pour tous ceux qui sont à lui, nous les nations y compris. Pour ce qui concernait Moïse, à la différence du point de vue de Jéthro, c'est que lui n'enseignait pas dans le but de faire connaître aux Israélites ce qu'il doit faire. Pour Moïse, il n'y avait pas de devoir faire. Non, il était juste le porte-voix de la voix de Dieu en direction du peuple, sans rien d'autre ou sans plus. Son unique préoccupation était de faire connaître Dieu à chacun d'eux au travers des ordonnances de Dieu et des lois de Dieu. Verset 15, Moïse répondit à son beau-père. C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu, et pas pour consulter Moïse. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Après ce que Moïse avait prononcé, tout se passait entre l'Israélite et son Dieu. Le devoir-faire était absent, et c'était suivant la connaissance de Dieu dans une intimité que l'Israélite faisait, ne faisait pas. Mais pour le beau-père de Moïse, il en était tout autrement. Verset 19. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. En fait, en agissant de cette manière, Jéthro faisait en sorte de rendre caduque l'alliance que Dieu voulait mettre en place, et ce de manière individuelle dans le cœur de chacun. Le fait est aussi qu'on ne sait que trop d'où viennent les ordonnances et les lois que le beau-père de Moïse évoque, contrairement à celles que Moïse fait connaître au peuple, et qui sont clairement celles de Dieu. Si quelqu'un sert de faux dieux, n'évoquera-t-il pas des ordonnances et des lois qui sont forcément de la même nature que les faux dieux qu'il sert? Et tout cela est arrivé à la suite d'un bon repas, dans lequel Aaron et les anciens vinrent participer, mangeant l'holocauste et les sacrifices qui venaient d'être offerts par un sacrificateur de faux dieux, mais qui avait maintenant un dieu supplémentaire, plus grand que les autres dieux. En fait, celui qui n'a jamais quitté sa position de sacrificateur de faux dieux, venait en un instant d'ôter la liberté que chacun avait en lui-même de servir et d'honorer Dieu, sans aucune obligation, mais par amour de ce Dieu qui se faisait connaître à chacun. Qu'a dit son beau-père à Moïse? Eh bien, il lui a dit d'écouter sa voix à lui, la sienne, celle d'un homme. Un homme qui va lui donner des conseils, et que sur la base des conseils qui auront été donnés par un homme, eh bien Dieu sera avec lui. Dieu sera l'aide de l'homme. C'est bien ça, n'est-ce pas? L'homme en premier, et Dieu en second, en tant que son aide. Dieu sera donc au service de Moïse, et cela est venu par Jéthro. Mes frères et sœurs, ou amis lecteurs, dans cette parole de Jéthro, où voyons-nous la manifestation de l'alliance de Dieu qui s'était engagé lui-même par parole et par serment à s'occuper de tout? Eh bien, c'est ce même langage, c'est ce même message qui est parvenu jusqu'à nous les nations. Dans les milieux religieux, on fait sous-entendre aux croyants qu'ils doivent faire pour parvenir au salut ou à la sanctification, pour ne parler que de ces deux sujets, et que Dieu les aidera dans leur démarche. En fait, par son conseil à Moïse, Jéthro venait de se mettre entre Dieu et Moïse. Il faisait maintenant office de sacrificateur de Dieu, pour Moïse ainsi que pour tout le peuple dont Moïse avait la responsabilité. C'est exactement de la même manière que les choses se passent dans tous les milieux religieux sans exception. À leur tête, il y a des hommes, et ce sont ces hommes de bons conseils qui font office de sacrificateurs entre Dieu et les croyants, alors même qu'il les envoie dans des voies d'égarement, exactement comme l'a fait Jéthro envers Moïse. Verset 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Et d'après vous, qui est le grand absent dans tout cela? C'est Dieu et son alliance qui était et qui est encore en faveur de tous, sans exception. Voilà, frères et sœurs, comment le piège est venu se refermer sur Moïse et sur tout le peuple de Dieu qui quelque part se trouvait en Moïse. À partir de maintenant, le peuple va n'entendre qu'une seule voix de la part de Dieu à travers la bouche de Moïse, une voix qui va leur parvenir sous forme de loi, d'ordonnance et de commandement. Oui, ce qui au départ était un choix entre voix de Dieu et voix de l'homme allait maintenant devenir une seule voix sans autre choix. Alors que l'Éternel voulait que tous ceux qui lui appartiennent entre chacun et de manière individuelle dans son alliance, voilà qu'arrive un sacrificateur de Dieu étranger qui de surcroît s'établit lui-même sacrificateur de l'Éternel et sous le couvert de sa position de beau-père, c'est-à-dire prenant l'ascendant sur Moïse, vient lui dire que sa façon d'agir n'est pas la bonne et que désormais ce sera lui, Moïse, qui devra dire au peuple ce qu'il doit faire. Si maintenant c'est l'homme qui va devoir faire, où va alors passer l'alliance de Dieu dans laquelle c'est lui seul qui s'engage pour nous et en notre faveur? Eh bien, il ne fera plus partie des messages qui seront prêchés semaine après semaine, alors qu'il est pourtant question d'une alliance éternelle. Désormais, les croyants n'entendront plus qu'une seule voix, qu'une seule parole, qui est celle du devoir faire de l'homme Jéthro, et cette voix, leur paraîtra normale, puisqu'ils n'ont jamais rien entendu d'autre. Et nous-mêmes qui avons été au contact de responsables religieux dans les assemblées où nous allions, n'est-ce pas de cette manière que nous étions enseignés? N'est-ce pas le responsable de l'assemblée qui nous disait ce que nous devions ou ne devions pas faire? Mettant ainsi de côté l'alliance éternelle de Dieu, de laquelle, par la foi, nous sommes placés en Christ. Où est donc passée cette si belle alliance de Dieu qui normalement devrait nous enseigner de cœur à cœur et par l'Esprit, et nous le faire connaître lui? Où se trouve donc le repos que Dieu a promis dans son alliance, et qui est pour tous ceux qui croient en lui par Jésus-Christ? La question que chacun peut se poser maintenant est de savoir si oui ou non l'alliance éternelle de Dieu m'a un jour été présentée, et si cela n'a pas été fait, alors sous quelle alliance je vis ma vie? Cette vie qui normalement est appelé à être vécu en Christ. Alors que depuis la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit nous a été donné, son ministère est maintenant comme rendu nul, puisque ce n'est pas par lui que nous sommes enseignés, mais par des hommes qui, par des moyens extérieurs, viennent nous prêcher des lois et des ordonnances, au lieu de nous faire entrer dans l'intimité de Jésus-Christ, qui nous a rachetés pour vivre à Dieu, notre Père dans le ciel. C'est ainsi que le conseil de Jéthro continue, verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Ce qui veut dire que pour Jéthro, Dieu avait chargé Moïse d'une mission beaucoup trop lourde à porter par lui seul, et que l'alliance de Dieu était en fait comme un leurre. Dit autrement, le Dieu que tu sers, Moïse, n'a aucune compassion pour toi. Heureusement que je suis venu vers toi pour régler ce problème et te décharger de ce lourd fardeau que Dieu a mis sur toi. Verset 23. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Donc si Moïse, lui, le serviteur de Dieu, est tombé dans le piège tendu par Jéthro, quoi d'étonnant que nous y tombions aussi? Qui n'a pas un jour pensé que les conseils de Jéthro envers Moïse étaient bons, alors qu'en réalité il était un serviteur de l'adversaire? Et pendant tout ce temps, Dieu garda le silence sur cette affaire, car ne perdons pas de vue que Moïse était aussi à l'école de Dieu, et que dans cette école, tout un chacun peut se tromper ou être trompé. Ce fut le cas de Moïse que Dieu n'a pas prévenu du piège, car il fallait que ce qui était caché soit révélé, c'est pourquoi il ne reçut aucun reproche de la part de son Dieu. Si Dieu ne dit rien à son serviteur, avons-nous, nous, le droit de lui jeter la pierre alors que nous marchons justement dans ce même principe du devoir-faire qu'a institué Jéthro? Et comment pourrait-il en être autrement pour nous, si personne n'est encore venu nous parler de cette magnifique alliance éternelle que Dieu a faite en direction de tous ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ, lui le Fils de la promesse qui a été manifesté depuis maintenant 2000 ans? Et aussi, devons-nous exclusivement rejeter la faute sur les responsables religieux qui ne nous auraient pas fait connaître cette bien belle alliance, qui donne accès au repos à tout homme qui croit en lui par Jésus-Christ, alors que nous aussi, nous avons les Écritures à portée de main? En parlant de cette manière, loin de moi de vouloir attrister quiconque, mais il me semble que le sujet qui est abordé ici est suffisamment sérieux et grave pour prendre en compte toutes les parties que celles-ci mettent dans la joie, dans notre cœur, ou bien de la tristesse de voir combien nous-mêmes nous avons aussi été manipulés par l'adversaire et l'opposant de Dieu. Verset 25. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps, il portait devant Moïse les affaires difficiles, et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père, et Jéthro s'en alla dans son pays. Si Moïse laissa partir son beau-père, c'est d'abord parce que la décision ne venait pas de Moïse, mais de celui qui n'avait jamais quitté sa position de sacrificateur en Madian. Sur le plan humain, Jéthro avait beaucoup trop à perdre, et on était bien loin de ce qu'il avait dit la veille ou l'avant-veille, que l'Éternel était plus grand de tous les dieux. Mais alors si l'Éternel était devenu pour lui le plus grand, pourquoi ne pas laisser tous ces faux dieux en Madian et suivre le seul et véritable vrai Dieu? Mais non, décidément Jéthro était bien un serviteur de l'adversaire qui, après avoir fait son œuvre néfaste de mettre le peuple dans l'obligation de marcher uniquement par ordre et par commandement, par rapport à son Dieu, s'en retourne maintenant vers les siens et leurs faux dieux. Le ver était maintenant entré dans le fruit. Jéthro pouvait retourner satisfait dans sa patrie. Dans le chapitre précédent, Exode 17, verset 13, on a vu que la force brutale d'Amalek n'avait pas pu vaincre le peuple d'Israël conduit par Josué, alors comme par hasard, Jéthro est arrivé avec toute sa ruse. Ce que l'adversaire ne peut obtenir par la force, il cherchera à l'obtenir par la ruse en employant des paroles pleines de sagesse qui mettent dans la confiance ceux qui les écoutent. Voilà pour la deuxième partie de ce document. Je vous propose de continuer dans un autre document qui vient à la suite des deux premiers, si le sujet vous intéresse toujours. Ce document qui vient est toujours en rapport avec l'alliance de Dieu en direction d'Abraham et de sa foi, et de ce que Jéthro a semé dans le cœur du peuple de Dieu pour voiler et rendre caduque cette alliance. Mais soyons quand même rassurés. Quoi qu'il arrive, cette alliance de Dieu ne peut être ni détruite ni annulée, puisqu'il est écrit qu'il s'agit ici d'une alliance éternelle, dans laquelle Dieu s'est engagé par serment, en jurant par lui-même. De cette alliance éternelle, David, qui était aussi prophète et un type de Christ, en parlera aussi. Parole de David, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, « Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin. Quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Donc, quoi qu'il se passe et quoi qu'on lise dans ce qui va suivre, Dieu ne reviendra jamais sur les promesses par lesquelles il s'est engagé envers Abraham, jusqu'à nous atteindre nous, et jusqu'à la fin des temps. À suivre.